BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs si vous nous rejoignez dans Good Evening Business jusqu'à 20h. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à vous.
Dans l'actualité ce soir, alors déjà on attend de voir si on va passer, alors j'irai pas jusqu'à dire l'hiver, mais déjà une partie de l'hiver parce qu'on attend toujours de savoir, a priori il n'y a pas de suspense, hein, si la loi spéciale va bien passer du côté de l'Assemblée, a priori ça va se faire. Sans problème, on va en parler dans un instant avec Thomas Asportas et puis on en parlera avec votre invité évidemment.
Oh, bien sûr, c'est Natacha Valla qui est économiste, elle est présidente du Conseil National de la Productivité, elle est aussi doyenne de l'École du management d'innovation Sciences Po Paris. Bon, c'est une des meilleures économistes. Je vais l'interroger évidemment là-dessus en disant mais qu'est-ce qui peut se passer? Quelles sont les conséquences? Dégradation évidemment de la note de la France. Est-ce qu'on va vers un risque quand même sur la zone euro? Et puis on parle quand même de productivité. Vous savez, c'était vraiment pas terrible, c'était même un peu la catastrophe. Ça va mieux? Mais est-ce qu'on peut mieux faire? Surtout qu'on fait beaucoup mieux aux États-Unis.
Natacha Valla avec vous à 18h10. On débrief ça à 18h30. Plein d'autres actus ce soir. La première journée de cotation de Canal+ à Londres, ça se passe très mal. On verra ça dans un instant. Transdev qui va bientôt passer sous contrôle allemand. Et puis à partir de 19h15, on va profiter. Il n'y a pas de gouvernement, profitons-en. On va faire un zoom dans cette période de grand rush des achats de Noël sur le portrait type du consommateur en 2024. Comment se comporte-t-il? Qu'est-ce que son comportement nous dit de l'époque actuelle? On sera avec des sociologues, des spécialistes de la consommation, des spécialistes de retail. Ça s'annonce absolument passionnant. 19h15.
Parfait pour nos cadeaux.
Absolument. Voilà le programme. On est ensemble jusqu'à 20h. Bien sûr.
Good evening business, le journal.
Donc ça devait être une formalité, ça dure un petit peu du côté de l'Assemblée nationale. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Donc la loi spéciale qui devrait être adoptée normalement d'ici peu de temps, il n'y aura pas de souci du côté de l'Assemblée nationale. Il y avait quand même une question, c'était de savoir si on intégrait dans cette loi l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Bah, la réponse est tombée, finalement ça ne sera pas le cas Thomas.
Oui, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a déclaré effectivement à la mi-journée que la disposition n'était pas recevable, que cette mesure n'avait pas sa place dans ce projet de loi spéciale. Elle s'est rangée derrière l'avis du Conseil d'État qui avait déjà expliqué il y a quelques jours que la loi spéciale n'était pas le bon texte pour faire passer ce type de mesure, parce que c'est une mesure politique et une mesure politique fiscale, ça passe dans un budget. Et c'est bien ça qui se jouait autour de cette mesure, de cette indexation ou pas, une bataille politique entre les oppositions et le bloc central autour des conséquences de la censure pour les ménages, puisque sans indexation du barème de l'impôt sur le revenu, d'après les calculs de l'OFCE, 380 000 nouveaux foyers vont entrer dans l'impôt sur le revenu et 18 millions de Français vont payer plus d'impôt sur le revenu. Et chaque camp renvoie à l'autre la responsabilité de cette hausse d'impôt programmée pour les ménages. Les oppositions ont pris acte du refus d'Yaël Braun-Pivet. Elles ne baissent pas les armes pour autant, puisqu'elle propose désormais de déposer un autre texte, un autre projet de loi avant le budget, puisqu'on sait que le budget, ça va prendre des mois à élaborer et à faire voter. Une loi d'urgence, je cite, qui porterait diverses dispositions économiques et financières ayant fait consus au Parlement, comme l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, mais aussi l'indexation du PTZ, ça vous savez que c'était dans les tuyaux, ou encore certaines mesures attendues par les agriculteurs. Et ce texte serait examiné dès la reprise des travaux à l'Assemblée le 13 janvier. Les oppositions demandent à ce que ce soit à l'ordre du jour, donc à partir du 13 janvier. Et là aussi, bah, ce sont les présidents de groupe qui décideront ou pas de l'examen de ce texte.
Bien, on va d'abord attendre de voir si cette loi spéciale, a priori, pas de souci, ça sera le cas d'ici quelques minutes. Ouais. Évidemment, on suit tout ça en direct. On en reparle avec vous tout à l'heure à 18h30, Thomas.
Et puis examen au Sénat mercredi. Notre formalité.
Et la boucle sera bouclée, absolument. Pendant ce temps, François Bayrou a passé la journée à consulter à Matignon pour constituer à la fois un gouvernement et une majorité capable de voter un budget. Il a reçu depuis ce matin les représentants du RN, de Renaissance, des Républicains, des socialistes aussi qui, eux, le disent à ce stade, rien n'est acté. Écoutez Olivier Faure pour le Parti Socialiste.
Nous avons beaucoup parlé de pacte de non-censure. Au stade où nous parlons, nous n'avons rien signé, il n'y a pas d'accord de non-censure. Il y a pour l'instant des gens qui sont en discussion et qui souhaitent comprendre, qui souhaitent se comprendre. Et nous, nous souhaitons comprendre quelles sont les conditions à partir desquelles nous pourrions considérer que ce gouvernement est dans une logique de dépassement de ce qu'a été le macronisme pendant 7 ans. Et si c'était pour avoir la même politique avec un Premier ministre qui a été un compagnon de route historique du président de la République, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous sanctionnerions de la même façon.
Voilà, Olivier Faure pour le Parti Socialiste tout à l'heure à Matignon, 18h03 en Allemagne. Il n'y a pas eu de suspense. Les députés, comme s'y interdisaient, n'ont pas accordé la confiance à Olaf Scholz qui avait sollicité leur vote. vote négatif qui va donc entraîner la tenue d'élections législatives anticipées en février prochain. Et pourtant, Olaf Scholz a tout fait pour plaider sa cause avant ce vote négatif. Écoutez.
Aujourd'hui, une puissance nucléaire fait la guerre en Europe à seulement 2 heures de vol d'ici. Nous devons investir massivement dans notre sécurité et notre défense pour relever ces défis. Nous sommes aujourd'hui confrontés à de graves bouleversements économiques, crise énergétique, isolationnisme, concurrence déloyale. Notre économie en réseau mondial est plus durement touchée que les autres.
Voilà Olaf Scholz au Bundestag tout à l'heure, élection législative anticipée en Allemagne, qui auront donc lieu a priori à la fin du mois de février. Dans l'actualité des entreprises, l'Europe qui enfin se décide à riposter à Starlink, la constellation de satellites d'Elon Musk. L'Union européenne a officiellement lancé aujourd'hui son propre programme baptisé IRIS², qui prévoit de mettre sur orbite un réseau de 290 satellites d'ici 2030. Starlink affirme en avoir déjà mis 6000 en orbite, mais on vous racontera ça dans le journal de 19h. Et puis c'était une journée très attendue, puisque c'est aujourd'hui qu'était cotée ici ou là les nouvelles sociétés issues de la scission de Vivendi. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
Donc il y avait Canal+ à Londres, c'est pas fini.
Non.
Et Havas à Amsterdam. Ça se passe pas bien, notamment pour Canal+, Mathieu, clairement. Hein,
c'est... Oui, ça se passe pas bien du tout même, hein, puisque le groupe Canal+, coté, pour le moment, est en baisse de 23% à la Bourse de Londres. Alors le groupe avait un petit peu anticipé, prévenu que les premiers jours seraient sûrement difficiles, mais là, moins 23%, c'est très important. Pour Havas, c'est pas beaucoup mieux, puisque le cours de bourse ne progresse que de 1%, mais le prix d'introduction en bourse avait été fixé très bas, justement, pour essayer d'attirer les investisseurs. Et ça n'a pas suffi. Quand on totalise les différentes entités du groupe Vivendi, on a 8,5 milliards d'euros de capitalisation boursière, et c'est moins que ce que valait Vivendi il y a 2 mois. Alors que l'argument, justement, du groupe Vivendi, c'était de dire, en cotant en bourse les différentes entités, ça vaudra plus que ce qu'est Vivendi, puisque Vivendi subit ce qu'on appelle une décote de holding pour les investisseurs. Donc cette théorie, en tout cas, est en train de s'effondrer. Et le pari de Vincent Bolloré est pour le moment raté, à moins que, comme le disent beaucoup d'actionnaires minoritaires du groupe Vivendi, cette opération visait justement à avoir des valorisations très basses pour permettre au groupe Bolloré, qui va en devenir directement actionnaire, de prendre le contrôle à bas coût, pour pas cher, et donc de continuer sa stratégie de prise de contrôle rampant.
Bon, donc on va regarder un petit peu sur le long terme, et pas
sur
la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup Mathieu, on vous retrouve, on en reparlera plus largement de cette première journée de cotation tout à l'heure à 18h45 avec nos experts. Et puis autre grande actu entreprise ce soir, alors c'est Transdev, hein, qui est l'un des principaux groupes de transport public en France. Transdev qui va bientôt passer sous contrôle d'un groupe allemand, c'est le groupe privé Rettmann, déjà actionnaire à 34%, qui pourrait devenir majoritaire. Jean-Baptiste Huette.
Rettmann, c'est depuis 1934 un groupe familial allemand spécialiste de l'eau, du recyclage et de la logistique. 14 milliards de chiffre d'affaires, 72 000 collaborateurs. Rettmann est aussi devenu le deuxième actionnaire de Transdev derrière la Caisse des dépôts. 34% acquis en 2019 pour créer, d'après les propres termes de son patron, un Airbus du transport de personnes. Une opération intéressante pour Transdev qui assure la majeure partie de son chiffre d'affaires à l'international et qui s'est donc vu ouvrir les portes du marché allemand. Intéressant également pour Rettmann qui a pu constituer un pôle transport devenu un des piliers de l'activité du groupe. Renforcer sa participation dans Transdev était donc une évidence pour l'Allemand. Il s'agit d'aller conquérir de nouveaux marchés à l'international. Ça, la Caisse des dépôts l'avait bien compris, puisqu'elle a fait monter les enchères ces derniers mois en convoquant une dizaine de fonds d'investissement, dont Meridiam. Au final, c'est bien Rettmann qui l'emporte. L'Allemand détient à présent 66% et la Caisse des dépôts 34%.
18h07, on va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Aude Kersulec.
Bonsoir.
On a terminé la journée en baisse sur le CAC 40.
Oui, petite journée. Hein. Le CAC qui reprend ses mauvaises habitudes et sous-performé les autres indices européens. On perd 0,7%, 7359 points. Quand l'Eurostox ou le DAX à Francfort perdent seulement 0,4% et que les marchés américains, eux, sont à la hausse. Alors, il ne se passait pas grand-chose ce lundi sur les marchés. On a quand même quelques valeurs qui perdaient pas mal de terrain, à l'image de Stellantis, à cause de négociations qui se passe plutôt mal avec le gouvernement italien, -4,5%. À la hausse, c'était Vivendi, mais on en a parlé. Vivendi qui devrait d'ailleurs quitter le CAC. Hein. Euronext se réunit demain soir. Et les autres actions aussi qui étaient assez en ordre dispersé. Si on regarde du côté de l'obligataire, il n'y a pas eu tellement de réactions à la dégradation de la note de crédit de la part de Moody's. On a un spread qui est stable avec l'Allemagne aux alentours de 78 points de base. On est à 3,04% pour le 10 ans français. Donc pas d'affolement sur le marché obligataire et petit début de semaine sur les marchés européens, alors que le Nasdaq, lui, est un nouveau record.
Ouais, on va voir ça effectivement. Merci beaucoup. Les marchés américains à la mi-séance. Le Dow Jones d'abord qui perd 0,1%, 43 792 points. Puis le Nasdaq effectivement toujours en hausse, plus 0,88%. On a franchi la barre des 20 100 points. 20 102 à l'heure actuelle pour le Nasdaq. 18h09, c'est donc l'économiste Natacha Valla qui est l'invitée d'Edwige Chevrillon. La grande interview dans deux petites minutes sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Natacha Valla. Elle est économiste, elle est présidente du Conseil national de la productivité. Elle est aussi doyenne de l'école de management et de l'innovation de Sciences Po. Et puis je viens de l'apprendre aussi, bonsoir Natacha Valla.
Bonsoir.
Que vous êtes aussi membre du Haut Conseil aux rémunérations, à l'emploi et à la productivité. Ben ça y est, on a trouvé où faire plein d'économies. Il faut supprimer tous ces comités.
Alors il faut des instances de dialogue et ça, c'en est une, donc qui a son utilité. Mais effectivement, il y a un exercice de consolidation de tous les organismes publics qui pourraient effectivement être fusionnés ou être en tout cas rendus plus efficaces. Ça y est,
Travail. En tout cas, vous êtes une des meilleures économistes, notamment sur toutes les questions financières et monétaires. Donc, ça va être intéressant d'avoir vos explications, vos décryptages. Et puis, vous êtes aussi, très accessoirement, administratrice du groupe LVMH. François Bayrou, donc, qui vient d'être intronisé nouveau Premier ministre, dans son discours face à Michel Barnier, il a dit: je suis face à un Himalaya de difficultés. Je compte suivre un chemin inédit, notamment sur les questions budgétaires et financières. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment vous voyez ce chemin inédit face à cet Himalaya de difficultés?
Alors, l'image de l'Himalaya, elle est doublement bonne. Elle est bonne parce que la montagne est haute et donc difficile à franchir ou en tout cas difficile à pratiquer. Et puis, c'est un chemin de crête, c'est-à-dire que les options ne sont pas nombreuses et il faut faire attention à ne pas tomber dans les écueils. Donc, la situation dans laquelle on est aujourd'hui en France d'un point de vue économique et financier, c'est plus tellement une question de parti, c'est presque plus malheureusement une question de ligne politique. C'est une question de saine gestion et de gestion de l'état des finances publiques actuelles, mais aussi de gestion, et ça c'est vraiment une dimension un peu nouvelle, c'est une gestion de l'ensemble des risques qui pèsent autour de cet état un petit peu délétère des finances publiques. Je m'explique. Les risques auxquels on faisait face jusqu'à maintenant et qui étaient finalement très peu coûteux en termes de marché financier, ce sont lesquels ? Premier risque, risque sur la croissance. Bon, on sait que la croissance en France est pas forcément, n'a pas été forcément mirobolante, mais...
Ça se tient, 0,9.
Enfin, voilà, on a quand même une performance économique depuis le Covid qui est plutôt... qui se respecte. On a des risques plus sérieux, car aussi plus anciens et liés à des pratiques qui ont été transpartisanes quasiment, c'est la gestion des finances publiques et notamment la capacité ou non à générer des petits déficits. Je ne parle même pas de surplus, mais en tout cas en termes primaires, c'est-à-dire en dehors même des questions de dette, j'y viendrai, à avoir des comptes plus ou moins équilibrés, en tout cas en mesure d'attente sur le moyen terme. Ça, on est loin du compte et on est perçu comme étant comportementalement loin d'être capable de le faire. Donc cet ensemble de risques, finalement, on réussissait à le compenser par le fait qu'on a un marché de la dette qui est très gros, alors pour des raisons qu'on évoquait tout à l'heure, mais en tout cas qui est très liquide, extrêmement bien géré par les équipes de Bercy qui savent dans quel segment émettre, à quel moment, qui ont une très bonne relation avec les investisseurs, notamment les investisseurs internationaux. Et puis, à cette situation se rajoute aujourd'hui un risque qui n'existait pas, en tout cas pour la France, de façon potentiellement tangible pour les marchés, qui est le risque politique. Et ce risque-là, il se matérialise comme la concrétisation d'une incertitude de ce qui va advenir demain, en termes de représentation politique du pays, et en fonction de celle-ci, des capacités de choix ou non en termes budgétaires qui pourront être conduites.
Oui.
Et ça, la question se pose en des termes nouveaux, mais elle se pose en des termes nouveaux avec des conditions initiales qui sont celles d'aujourd'hui, qui sont très détériorées, notamment au niveau du stock de dettes auquel on fait face et qui, lui, va rendre les finances publiques très sensibles à l'évolution des taux d'intérêt qu'on paye, nous, sur notre dette souveraine. Donc, tout commence à se tenir et ces risques-là...
Et à se tendre.
Et à se tendre.
Oui.
Alors, c'est là qu'il faut avoir l'œil très proche des réalités de marché telles qu'elles s'expriment dans les taux d'intérêt et telles qu'elles s'expriment dans les positions des différents acteurs. On entend de façon, je prononce le mot anecdotique, mais c'est pas une anecdote du tout, mais des grands institutionnels qui disent, je neutralise ma position sur la France. Aujourd'hui, c'est un peu tabou de dire, je sors de la dette française, ça ne se fait pas.
Non.
La dette fait partie, la dette de notre pays, elle fait partie de l'univers dit
des actifs. Oui, c'est 30% à peu près de leur...
Sûr, donc on est encore nos pères aujourd'hui. Ce sera peut-être plus le cas demain, ce sont l'Allemagne, ce sont les États-Unis, en tout cas tous ceux qui méritent l'attention des portefeuilles, qui sont des portefeuilles sûrs et qui sont la contrepartie de votre assurance vie, de notre épargne. On joue avec le feu, et ça c'est une nouvelle dimension. On sait aujourd'hui que les agences de notation qui ont montré beaucoup de patience jusqu'à aujourd'hui...
Jusqu'à vendredi, puisque cette dégradation quand même surprise...
Exactement.
De la France.
Alors, et ça, c'est la dimension vraiment la plus intéressante.
On joue avec le feu, oui.
On a aujourd'hui, normalement, il y a des calendriers de révision des positions des agences de notation qui donnent une image de la qualité de crédit et qui donnent aussi l'autorisation ou non aux portefeuilles qui doivent s'investir dans la dette qu'on appelle investment grade, qui donne le blanc-seing pour rester dans la dette française. Je ne dis pas qu'on va passer dans des obligations junk demain, mais il ne faudra sans doute pas en arriver là pour que les prix de marché, on regarde souvent les spreads par rapport à l'Allemagne, se tendent. On l'a vu dans des circonstances finalement moins extrêmes pour l'Italie au moment de la crise de la zone euro, pour certains pays, pour l'Angleterre, je ne veux pas revenir sur le cas qu'on a tous surcommenté, mais quand même, l'Angleterre, il y a quelques années, s'est retrouvée en face d'une situation de marché complètement inattendue. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelques dizaines de milliards, j'exagère, 50-60 milliards de sterling de budget qui, entre guillemets, n'étaient pas financés, donc pour laquelle le plan de financement n'était pas explicitement communiqué au marché. Et on se rend compte qu'avec ce type d'étincelle, on peut glisser vers un scénario qui n'est plus le scénario dans lequel on s'endort depuis des décennies.
Oui.
Et de dire, tout va bien, personne n'osera, c'est la zone euro, c'est un grand pays. Alors, ce qui est vraiment dommage dans tout ça, c'est que la France, elle a quand même des capacités de croissance et des fruits bas, comme on dit, des choses qu'on pourrait cueillir assez relativement facilement si on pouvait faire les bonnes réformes ou orienter l'épargne au bon endroit. Mais on n'est pas, malheureusement, pas capable d'avoir cet esprit, état d'esprit-là aujourd'hui.
Alors, je voudrais qu'on revienne peut-être un peu sur les étincelles. Déjà, pour la dégradation de Moody's, vendredi, dégradation encore une fois surprise, c'est une étincelle qu'on n'attendait pas. Quel impact ça peut avoir pour la France ?
Alors,
est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque quand même que la France joue en deuxième division ? On n'y est pas encore, attention.
On n'y est pas encore. La vraie deuxième division, ce sera quand on passera le cap de l'investment grade. Et ça, on n'y est pas, mais je ne pense pas que le fait de jouer en deuxième division soit le seuil d'alerte. Le seuil d'alerte, il sera un petit peu plus haut. Il sera au moment où on se dira, on mettra dans les prix de marché ce risque politique-là, combiné avec les conditions initiales que j'énonçais tout à l'heure. Un budget qui n'a pas été tenu pendant des décennies, mais dans un environnement où on a le sentiment que le monde politique est capable de produire un processus de décision qui maintient un équilibre, qui maintient une dynamique, qui génère de la croissance. Il faut pas oublier qu'on n'en serait pas du tout là si on était capable de générer une croissance, un point de plus de croissance par an du PIB réel. Ça nous mettrait dans une situation beaucoup plus confortable.
Et alors, juste un point, alors on va faire un tout petit peu les Cassandres, Natacha Valla, mais est-ce qu'il y a le risque, c'est une crise brutale ? Ou alors c'est une dégradation progressive, si vous voulez, de notre situation.
Moi, je pense que la dégradation progressive, elle a déjà en partie eu lieu, et en grande partie eu lieu. On a bénéficié de la Commission européenne cette année d'une certaine clémence. On a soumis un plan, il y a eu des déficits qui n'étaient pas prévus. Bon, quand même, un certain nombre de signes qui auraient pu générer des réactions un petit peu plus brutales. En tout cas, ça n'a pas été le cas, mais on est quand même sous un état d'observation de près par les marchés et par nos pairs européens. Donc cette latence d'un État qui glisse vers des tensions, on vit avec lui depuis longtemps. Et je pense que malheureusement, on est plus près qu'avant d'événements un peu plus radicaux. Si on devait avoir un événement plus radical, appelons les choses clairement, une tension obligataire, une enchère un peu ratée, voilà, il n'y a pas autant de monde à l'enchère de l'agence France Trésor que ce qu'on attendait, ça pourrait se produire. Oui, ouais. Si on en arrivait là, il faut être capable, et je pense qu'aujourd'hui, il faut être capable de dérouler les scénarios, parce qu'il n'y a pas besoin de paniquer en réalité. Il faut être prêt par rapport à ces crises-là.
Oui, alors j'ai envie de dire, encore faut-il qu'il y ait un ministre de l'économie, mais bon, ça c'est encore une autre paire de manches. C'est quoi les scénarios alors ?
Alors, il y a le scénario le meilleur, ce serait qu'aux premières prémices, les Anglais diraient « put your acts together », on se prenne en charge et qu'on soit capable de générer une certaine consolidation fiscale. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que ça, avec nos propres forces politiques.
Pourquoi ? Consolidation fiscale, vous entendez quoi, précisément ?
Une réduction des dépenses. Je pense que ce qui nous a manqué là, dans la discussion qui a précédé, dans la gestation de la loi de finances, qui est celle qu'on a laissée au moment de la confiance, c'est qu'on a beaucoup discuté de revenus, de hausse d'impôts. On a très très peu discuté des dépenses. Or, ce sont là les leviers les plus puissants pour rétablir un équilibre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne le fait pas nous-mêmes, ce ne sera pas les grands méchants marchés qui vont le faire pour nous. C'est que si on a besoin d'avoir de l'aide, entre guillemets, extérieure, il faut comprendre de quelle nature elle peut être, cette aide-là. Et pour ce faire, il faut regarder un peu les expériences qui nous ont entourées quand même ces derniers temps. On ne va sans doute pas avoir le FMI à Paris. Enfin, ça, quand même, ce serait un petit peu extrême.
Non, mais il y a quand même le fantôme. Je reprends les termes que vous avez utilisés dans une chronique que vous avez écrite pour nos confrères des Échos. Vous parlez du fantôme de la Grèce. Vous dites bien, on n'est pas dans la même situation, mais le fantôme là qui rôde.
C'est un très bon exemple, parce que ces pays dits du Sud qui posaient problème dans les années 2008-2010 et les années qui ont suivi, on les a mis en face d'un ensemble de solutions vraiment drastiques. La Grèce, c'est l'exemple emblématique. Pourquoi ? Parce qu'on lui a imposé, enfin en tout cas le pays a été soumis.
Incroyable.
Il faut le dire, parce qu'on l'oublie, à un programme de financement. Donc, ils n'ont pas été laissés tout seuls. C'est ce qu'il faut comprendre.
Non, mais il y a quand même eu un programme d'une violence inouïe.
C'est ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans le détail. C'est très concret. On ne parle pas de choses abstraites. Si on le fait nous-mêmes, on maîtrise les paramètres. Si on n'a plus accès au marché, qu'on a besoin d'un soutien de financement, alors il faut qu'on se plie aux conditions qu'on va devoir ou vouloir appliquer.
Et justement, est-ce que la Banque Centrale Européenne, est-ce qu'il y a une réelle protection à travers son outil ? Est-ce qu'il y a une vraie protection, et à quelles conditions ?
Oui. Alors moi, je le crois vraiment. Je pense que le fait d'être dans la zone euro, ça nous protège de scénarios qui seraient des scénarios d'un autre temps, on va dire, puisque la zone euro est quand même à traverser tellement de crises qu'elle a montré qu'elle a su développer des outils. Si on prend le cas de la Banque Centrale Européenne, il y en a deux. Il n'y en a pas 50. Il y a ce qu'on a appelé l'OMT. Le premier outil, c'était en 2012-2011. Enfin, c'était Mario Draghi.
Répété,
ça commence à faire un moment. Mais cet outil-là, il était très, très contraignant. C'est-à-dire, on devait avoir une conditionnalité. On devait s'assurer qu'un programme macroéconomique d'ajustement, qu'il soit structurel ou sur les grandes politiques, soit mis en œuvre. Il y a un deuxième instrument qui est un petit peu plus souple. Il faudra vraiment tirer les choses par les cheveux pour que la BCE accepte les circonstances pour l'activer. Et je pense que le débat est ouvert.
Est-ce qu'il y a un risque, justement, qui pèse sur la zone euro ? Est-ce qu'on va vers une crise de la zone euro ? Parce que il y a ce qui se passe en France. On voit bien que la situation est très différente en Italie, en Espagne. Alors, elle est très différente en Allemagne et en même temps, il y a la même crise politique puisque tout à l'heure, Olaf Scholz a perdu la confiance du Bundestag à la Chambre des députés. Donc, il y aura des nouvelles élections, je crois, le 23 février. Est-ce qu'il y a un risque d'éclatement de la zone euro ou pas?
Alors, l'éclatement, j'y crois pas trop non plus. Ça veut pas. Pourquoi ? Parce qu'on a des institutions qui sont solides. On a un mécanisme européen de stabilité qui est très fortement capitalisé. On a une certaine capacité d'emprunt, même si c'est un objet politique très délicat à manier, qui peut nous permettre de conserver la confiance collectivement. Mais ça repose sur plusieurs conditions. La première d'entre elles, c'est que la France et l'Allemagne acceptent de se parler et de tomber d'accord sur une vision commune sur notre devenir économique commun. C'est un peu une opportunité parce que l'Allemagne a changé, n'est plus sur un pied fort, elle est sur un pied faible. On est, nous, sur un pied faible pour les anciennes raisons qu'on connaît et dont on discute depuis tout à l'heure. Il faut voir dans quelle mesure le rapport de la relation entre ces deux pays fondateurs peut s'équilibrer.
Juste encore une question, ça fait un petit peu les cassandres, mais quand même c'est l'occasion avec vous de tester des hypothèses. On voit bien François Bayrou, il a consulté toute la journée, il n'y a toujours pas, on ne voit toujours rien venir, on ne sait pas avec qui il va s'appuyer, si on ne va pas se retrouver dans la même situation. Donc avec un budget 2025 qui sera pas voté et tout. Est-ce qu'il y a un risque de shutdown à l'américaine ? On a dit que non, bien sûr. Mais là, où on voit bien que la difficulté de voter un budget pour la France.
Ouais. Alors, moi, j'y crois pas trop. Et je pense que le shutdown, c'est un peu... Mais aux États-Unis, c'est un peu la...
Ah bah oui, parce qu'à chaque fois on fait toutes les émissions, attention, puis finalement, il y a une négociation dans la nuit, puis ça se passe.
Il y a toujours une solution. Donc là, apparemment, je ne suis pas constitutionnaliste, mais on a les outils pour faire des transitions. Et quand bien même on aurait...
On le voit avec la loi spéciale, là.
Peut-être que ce sera ça, l'étincelle bénigne qui nous permettrait d'avoir un sursaut avant d'avoir le vrai choc.
On pouvait dire que c'était la motion de censure et puis la chute de Michel Barnier, du gouvernement Michel Barnier. Visiblement, ça n'a pas l'air complètement le cas. Il nous reste peu de temps, parce que c'est passionnant tout ça, Natacha Valla, mais je voudrais quand même parler un mot de productivité, puisque vous présidez ce Conseil national de productivité. Et du reste, c'est un groupe de travail qui a été constitué dans le cadre de France Stratégie. Est-ce qu'il a avancé un peu, ces travaux, ou pas ?
Oui. On va sortir un rapport au mois de janvier. Donc, le texte est en train d'être finalisé. Il y aura des éléments, sur la productivité, sur la compétitivité. Je pense qu'on aura une vision de la compétitivité qui résonne un peu avec ce qu'on entend ces derniers temps sur la position de la France. Est-ce que la France est compétitive par le fait que ses industries et son économie soit à la frontière ou non. Ce qu'on observe quand même de façon un petit peu...
Ça se redresse quand même.
Surprenante.
Ça s'est redressé.
De façon... Voilà, c'est très, très léger. On n'est pas encore sur un très, très, très solide. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on regagnerait un peu de compétitivité coût. Et la compétitivité coût, c'est la compétitivité qui dit, finalement, on a des coûts de production qui sont relativement moins élevés que ce qu'ils étaient par le passé par rapport à nos voisins. Merci l'énergie, merci plusieurs facteurs. Mmh. Mais en tout cas, est-ce qu'on veut vraiment être dans cet étiage-là ? Est-ce qu'on veut vraiment être un pays qui produit à bas coût ou un produit qui produit avec de la marge, avec de la valeur ajoutée, et donc qui a une position sur les marchés
internationaux ? Mais comment vous expliquez ce différentiel ? Ça sera malheureusement ma dernière question. Entre les États-Unis, la productivité américaine, la productivité française ?
Alors, la productivité française, malheureusement, c'est l'histoire de l'Europe.
Ouais, ouais.
En France, on a eu des politiques Covid qui nous ont coûté un peu en productivité. On n'a pas encore la certitude d'en être sorti, donc on peut avoir un petit espoir. Il y a peut-être l'IA encore faudrait qu'on soit capable de...
C'est ça qui fait la différence avec les États-Unis ?
Non, pas forcément.
C'est avec l'intelligence artificielle, non ?
D'une certaine manière, mais c'est vraiment la capacité de croissance de l'économie, puis la flexibilité des différents facteurs.
On joue avec le feu, c'est pas moi qui le dis, c'est Natacha Valla. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve tout de suite. D'abord, Guillaume Paul, l'essentiel de l'info.
BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business, les experts BFM.
Allez, oui, 18h35, les experts BFM sont là, première partie jusqu'à 19h pour décrypter évidemment toute l'actualité économique du jour. Edwige Chevrillon, bien sûr, est resté. Rebonsoir Edwige.
Rebonsoir.
Thomas Sasporta, c'est avec nous. Bonsoir Thomas.
Bonsoir, bonsoir.
Et Mathieu Pechberti est avec nous. Bonsoir, bonsoir Mathieu. On joue avec le feu, Natacha Vallard. Réitérer le message que beaucoup réitèrent, pas depuis quelques heures, pas depuis quelques jours, mais depuis un certain temps finalement. Voilà,
oui, non, ce qu'elle disait, je trouvais intéressant dans son analyse, c'est de dire, bon, la France, on connaissait toujours la difficulté avec ses déficits, avec son endettement très important, mais il y avait toujours un budget, enfin bon, bref, on connaissait un peu les travers de la France. Là, il y a quelque chose de très nouveau qui est apparu, c'est ce risque politique, c'est d'instabilité politique. Et que là, du coup, on est dans un contexte différent parce qu'elle parle justement, c'est pour ça qu'elle dit on joue avec le feu, parce qu'il y a un petit étincelle. Ben, par exemple, on en dira un mot tout à l'heure, chez la loi spéciale, si ça se passe pas bien. Enfin, ici, un petit truc comme ça, là, il y a un risque où tout d'un coup, alors on dira jamais, les investisseurs, ils vont jamais dire on n'achète plus la France, mais ils vont dire on va faire un peu,
achètera plus cher.
On va faire attention, pas pour l'instant, on reviendra à la prochaine enchère. Et même, elle parlait justement à propos de l'enchère, elle disait, il faut que ça, pour l'instant, c'est très bien géré, l'expertise du Trésor est vraiment très reconnue. Mais s'il y a une enchère qui ne se passe pas très bien, là, ça peut vraiment provoquer une crise. Alors je disais, mais est-ce que ça serait une crise brutale? Est-ce que ça sera une dégradation progressive? Mais dit, mais on est déjà dans la dégradation progressive.
Ouais.
Donc quand même assez alertant sur les risques pour la France.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça nous rappelle à ce que nos animaux disent et que pendant très longtemps on a répété que les critères, enfin les deux, trois critères prépondérants pour les agences notation, c'était un, la capacité à lever l'impôt, ce qu'on arrive à faire encore aujourd'hui, pourvu que ça dure, et effectivement la stabilité politique dont on a bénéficié ces dernières années. Et ça, effectivement, cette citadelle-là s'écroule finalement.
Oui, puis en plus, Natacha Vallard, je veux dire, elle connaît quand même très très bien, c'est quelqu'un de prudent. Oui. Donc le fait qu'elle dise ça, je trouvé ça très rassurant.
Effectivement. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de tension sur l'obligataire aujourd'hui suite à la dégradation de Moody's, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a été un petit peu surpris parce que ce n'était pas censé tomber aujourd'hui. Voilà, ils ont annoncé il y a un peu plus d'un mois qu'ils abaissaient juste la perspective de la note.
C'était vendredi soir.
Vendredi, il y a un calendrier.
Il y a un calendrier. Ils ont parlé il y a un mois et demi. Bon, ils ont juste abaissé la perspective et puis là, consécutivement à la chute, à la censure du gouvernement Barnier, c'est tombé. Bon, la loi spéciale, Thomas. Alors, tout le monde disait, on va commencer à se prononcer, à examiner tout ça à partir de 16h, ça va être une formalité. Là, il est 18h37, ça dure, c'est toujours pas voté la loi spéciale.
Oui, mais ça, c'est dû au fait que vous avez les prises de parole de tous les groupes politiques à l'Assemblée, et chacun peut s'en donner à cœur joie. C'est-à-dire prendre le temps qu'il veut pour s'exprimer et expliquer pourquoi dans cette loi spéciale, il devrait y avoir tout un tas de choses qui ne peuvent pas y figurer, en fait. La loi spéciale, je vous ai rappelé, on a expliqué ça sur BFM Business il y a une dizaine de jours, c'est une loi qui sert à reconduire les crédits de l'an passé pour couvrir les dépenses de l'année à venir, et c'est une loi qui sert à lever l'impôt et à permettre, donc à l'Agence France Trésor, à lever la dette sur les marchés, et à l'ACOS, à lever de la dette pour financer les prestations sociales. Point barre. C'est juste ça, une loi spéciale. Seulement, la dernière fois qu'on s'en est servi, c'était il y a tellement longtemps, que tout le monde a oublié.
C'est ça,
voilà, exactement.
Oui,
que tout le monde fait semblant d'oublier, et tout le monde essaie de glisser ici ou là ce qu'il a envie d'y mettre pour des raisons politiques, et typiquement cette fameuse indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Parce qu'évidemment, ça, si on n'a pas de budget à la fin, enfin, milieu du printemps, vers le mois de mai, quand les avis d'impôt tombent, et tout le monde va se retrouver à payer plus d'impôts, et tout le monde va se retourner vers les partis politiques en disant, c'est de votre faute si vous nous avez censurés. Maintenant, à cause de vous, on se met à payer plus d'impôts.
Donc, c'est
tout le monde veut s'en prémunir et essayer de glisser ce barème-là, cette mesure-là.
Yael Braun-Pivet qui a dit aujourd'hui que ces amendements sont irrecevables.
Irrecevables, voilà, parce que le Conseil d'État l'avait dit. Oui. Et donc, l'Assemblée ne veut pas prendre derrière le risque de prendre une mesure, une disposition qui soit contraire à la loi, tout simplement, à la Constitution.
Malgré le forcing d'Éric Coquerel, le président de la Commission de finances, qui a essayé quand même.
Jusqu'au bout, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on est que, entre guillemets, en Commission des finances, c'était passé. En commission des finances, l'amendement avait été... Oui. D'ailleurs, il y a eu plusieurs amendements. Il y avait le sien, mais le Rassemblement National, les écologistes, le Parti Socialiste. Il y en a eu 5-6 d'amendements qui disaient tous la même chose. Ils ont tous été donc jetés à la poubelle aujourd'hui à la mi-journée. Sans surprise...
Parce qu'in fine, on va bien devoir indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Ça va se faire quand? Lors de la prochaine discussion budgétaire? Le prochain budget sera voté?
C'est là qu'aujourd'hui, il y a un petit élément nouveau. C'est que ça doit passer dans un budget, ce genre de mesure. Indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, c'est pas quelque chose d'automatique. C'est pas comme l'indexation des retraites sur l'inflation. Oui. Ça, si la loi ne bouge pas, le code de la sécurité sociale et des retraites prévoit que les retraites soient indexées sur l'inflation.
Ah, ça, c'est apolitique, ça.
C'est apolitique, exactement. En revanche, le barème de l'impôt sur le revenu, c'est politique. Souvenez-vous, François Hollande, quand il a pris le pouvoir en 2012, il ne l'avait pas fait. Donc, c'est pas automatique. Donc, quand vous voulez le faire, faut passer par un budget. Le budget, on ne sait pas s'il sera adopté. Et puis, ce qui est sûr, c'est que s'il est adopté, ce ne sera pas tout de suite. Et donc là, aujourd'hui, l'élément nouveau, c'est qu'Éric Coquerel et d'autres, mais Éric Coquerel notamment, puisqu'il a tweeté, dit « En attendant d'avoir un budget, je propose qu'à la reprise des travaux début 2025, ce sera le 13 janvier de l'Assemblée, on fasse une loi d'urgence, une loi spéciale qui permette de faire passer un certain nombre de mesures qui font consensus à l'Assemblée, type indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, mais d'autres choses aussi. Hein. Vous avez l'extension du PTZ, vous avez les aides aux agriculteurs, un certain nombre de choses qui passeraient.
Les crédits d'impôt exceptionnels.
Parce que ça a été voté, on peut le faire.
C'est pas des services votés, parce que c'est pas des choses qui sont votées tous les ans. Mais en tout cas, il y a un consensus à l'Assemblée pour le faire. Et comme le budget, pour le coup, lui, il fait pas consensus, il se dit, bah, prenons toutes les mesures du budget qui font consensus et faisons un espèce de mini-texte, une espèce d'apéritif budgétaire en début d'année pour faire passer tout ce qui passera sans problème, quoi. Mais là-dessus, encore, là, il faut que ce soit l'ordre du jour, hein. C'est-à-dire que idem, Yael Braun-Pivet et les autres présidents de groupe à l'Assemblée, c'est eux qui font l'ordre du jour à l'Assemblée. Ils peuvent très bien dire non, ce projet de loi, on ne prend pas.
Oui.
Mais messieurs... c'est exactement ce qui s'est passé, pardon, pour la réforme des retraites, l'abrogation de la réforme des retraites. Absolument. C'est les présidents de groupe qui avaient dit on n'est pas ça à l'ordre du jour.
Mais messieurs, l'Assemblée adopte à l'unanimité la loi spéciale, c'est fait à l'instant, voilà, c'est officiel. Nous passerons peut-être pas l'hiver, mais le début de l'hiver au chaud, finalement. Voilà,
c'est moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est que je ne vois pas très bien après la journée de consultation de François Bayrou aujourd'hui.
Alors, on va en parler dans un instant.
Comment on va avoir un budget 2025, parce qu'on est vraiment reparti absolument à zéro. Quoi. On n'a pas avancé d'un pouce. Alors peut-être qu'il veut François Villeroy de Galhau comme ministre de l'économie, ou Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Enfin bon, on n'en sait rien.
Tout ça parce qu'ils sont venus samedi matin à Matignon, c'est ça.
Voilà, ils ont été reçus. Ouais. Mais on ne voit pas très bien... comment on va avoir un budget 2025? Moi, pour l'instant, je ne vois pas.
C'est ce que disait Michel Barnier avant de partir. Hein. Il disait, mon successeur aura les mêmes difficultés
que la mienne. Je voudrais vous entendre là-dessus, mais on va écouter. Alors, quelqu'un qui n'a pas été reçu, mais c'est un nom qui a circulé aussi, c'est celui de Thierry Breton, qui était ce matin chez nos collègues de BFM TV, qui dit qu'il y a urgence, véritablement, parce que la France est à l'arrêt. Écoutez ce qu'il disait ce matin.
C'est vrai que compte tenu de la situation financière de la France, de la situation aussi, je n'ai pas peur de le dire ce matin à votre micro, d'arrêt de la France, parce que la France est à l'arrêt. Depuis maintenant quasiment un an, on a les acteurs, les agences économiques qui sont à l'arrêt, qui attendent de savoir s'ils vont investir ou pas. On a vraisemblablement un risque de restructuration importante dans nombre d'entreprises. Oui, la France est à l'arrêt.
La France
Il faut
est
un
à
gouvernement.
L'arrêt.
Ce qui est important de lire, c'est qu'elle indique qu'effectivement, on va être très nettement au-dessus de 6% cette année 2024 de déficit. Je rappelle pour nos téléspectateurs que 6%, ça fait quand même 180 milliards d'euros de plus qui vont dans la dette.
Voilà Thierry Breton ce matin sur BFM TV. Effectivement, il y a eu une négociation aujourd'hui, les tractations à Matignon autour de François Bayrou, car c'est quoi les représentants du RN du PS, des Républicains, Renaissance, effectivement.
Et voilà, parce que
en fait, ils prennent dans l'ordre d'importance en nombre de députés, en nombre de sièges à l'Assemblée.
Et il faut donner, refuser de venir.
Il faut les dégager à tout le monde, effectivement. Dans ces cas-là, comment vous faites un budget?
Ben, je ne sais pas, parce qu'en plus, il n'y a aucun...
Qu'elle soit économe, qui plus est, pardon.
Aucun n'est sorti en disant, ben non, il n'y a pas un accord de
non-motion
de censure. Et notamment, évidemment, le Parti Socialiste qui est venu à 3 pour démontrer que fait une démonstration de force. Donc, on est retour à la caisse départ. Enfin, peut-être qu'il va sortir, je ne sais pas, il va avec son piton, il va réussir à accrocher le haut de l'Himalaya. Mais,
non, mais...
je lui souhaite et je nous souhaite.
Hein, c'est un budget qui ne comporte... C'est un petit peu le sens de ce que disait l'économiste Denis Ferrand hier dans la Tribune Dimanche, qui disait, vous voulez de la stabilité politique, ok, mais ça se fera au détriment des finances publiques. Puisqu'il va falloir lâcher à chacun pour faire passer la pilule d'une coalition qui irait des LR au Parti Socialiste, finalement. Et on voit bien dans les revendications des uns et des autres que toutes les mesures d'économie sont à mettre à la poubelle.
Oui, mais maintenant, si j'écoute Natacha Avala, voilà, tout à l'heure, elle nous dit, ça ne peut sortir, enfin, on peut éviter une crise obligataire, enfin, le mot crise peut être un peu excessif, hein. C'est à une condition, c'est qu'il y a une consolidation fiscale, c'est-à-dire que si, effectivement, il y a une réduction des dépenses. Sinon, on va dans, là, ça commence l'étincelle, elle va être une sacrée étincelle.
Oui, mais là, la taxation des entreprises, Gabriel Attal et le bloc macroniste va dire, c'est terminé. je veux dire, les suppressions de logements de charge, on va dire, c'est terminé.
Maintenant, il faut
les retraites, on va dire, c'est terminé. L'électricité, on ne revient pas dessus. Les médicaments, on ne revient pas dessus, finalement. Donc, petit à petit, les 60 milliards d'euros d'efforts de Michel Barnier, tout part à la trappe, finalement, Thomas. C'est ça l'idée aujourd'hui.
Déjà, c'était son objectif à lui. C'est pas dit que François Bayrou le reprenne. Puis surtout, il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que maintenant, il faut arrêter de parler du budget en considération purement technique et financière. On voit bien que Michel Barnier est tombé pour des raisons politiques. Donc, on ne va pas commencer à reprendre les mesures les unes après les autres en se disant c'est bien, c'est pas bien, ça va faire assez de déficit, ça va pas faire assez de déficit. C'est pas pour ça qu'il est tombé, c'est pas parce que sa copine n'était pas bonne, c'est parce que des oppositions, enfin en tout cas des partis politiques, ont voulu le faire tomber. Et donc maintenant, il va falloir voir quel engagement, enfin quelle décision vont vouloir prendre tous ces partis à l'Assemblée vis-à-vis de François Bayrou. Mais ça va pas se jouer sur la qualité de la copie budgétaire que va rendre François Bayrou. Il faut qu'on retienne au moins ça du travail de Michel Barnier. C'est pas là-dessus qu'il est tombé.
Non, mais il est tombé.
Vous voyez bien tout ce qu'il a fini par lâcher aux uns, aux autres. À la fin, tout a été décousu et malgré tout, il est tombé.
Oui, mais parce que c'était l'absence.
C'est parce que les partis ont voulu le faire tomber. Oui, on a sa peau.
Il est aussi beaucoup trop technique. Son budget a été fait par son directeur du cabinet, Jérôme Fournal, qui était un haut fonctionnaire, qui venait de la direction générale des finances publiques. Et donc, c'était un budget qui était absolument pas politique.
Oui.
Or, ce qu'on peut reconnaître peut-être à François Bayrou, en plus, qui vient de choisir son directeur de cabinet, qui connaît très bien les élus locaux, qui vient des collectivités territoriales, c'est que ça sera peut-être politique, trop politique. Peut-être qu'effectivement, on aura moins de consolidation fiscale, pour reprendre le jargon.
Ouais, d'accord, qu'on dirait qu'on aura au moins un budget moins ambitieux.
Voilà. Il sera forcément moins ambitieux. Bon. Mais je pense que Michel Barnier, il a pêché par trop de. Enfin, son directeur de cabinet, trop de technicité.
À voir, cela étant dit, parce qu'encore une fois, on avait cette émission spéciale vendredi soir. Le premier mot qu'a employé François Bayrou, qui est derrière vous, c'est la dette. La seule chose dont il est parlé en termes d'économie et de.
Ah, mais depuis finance, toujours, lui.
Depuis c'est toujours, oui, voilà. Il a fait deux.
Ça m'étonnerait qu'il soit complètement absent du débat sur ce sujet-là.
Bien sûr. Voilà. Il veut trouver un chemin inédit.
Voilà. On discute avant d'attaquer l'Himalaya. On discute pour ce qui est du gouvernement. Là, évidemment, on en est au début.
On a discuté longtemps.
Oui, effectivement. Bien. Mathieu Pechberti, qui nous a écouté religieusement, qui nous parlait de la première journée de Canal Plus à Londres, Havas, à Amsterdam. Bah oui, la scission de Vivendi, effective. Et donc, il y avait les cotations aujourd'hui. Ça s'est pas bien passé du tout. Du tout, Mathieu. Notamment pour Canal Plus, là, qui vit une véritable déroute à Londres
oui.
ce soir.
Oui, ça s'est très mal passé. Alors, d'abord, l'effet Canal+, le cours de bourse a perdu 22% ce soir à la bourse de Londres. Donc, c'est effectivement un très mauvais démarrage. Mais, et quand je dis mais, c'est factuel, c'est-à-dire que Maxime Saada, le patron de Canal+, avait quand même un petit peu ambiancé, comme on dit, les investisseurs et les journalistes depuis quelques jours, en disant ça risque de mal se passer, d'être un peu mouvementé, parce qu'il voyait bien que les investisseurs étaient pas prêts à acheter beaucoup d'actions de Canal, ou en tout cas pas à n'importe quel prix. Donc, bon, ça veut pas dire que... Mais aujourd'hui, Canal+, en bourse, vaut 2,5 milliards d'euros ce soir, en tout cas là où c'est valorisé quasiment 7 milliards d'euros dans les comptes de Vivendi. Donc, alors la valeur comptable, la valeur boursière, faut pas, c'est jamais aligné par définition, mais là quand même l'écart est extrêmement important. Donc on va voir comment ça évolue dans les mois à venir. Et puis alors Havas, là c'est un petit peu l'effet inverse, c'est-à-dire ça fait plus 1%, donc ça stagne en gros. Mais le prix d'introduction en bourse, c'est toujours la même chose, on joue à la marchande, avait été fixé très bas, justement, quand même, pour essayer d'attirer un peu les investisseurs, parce qu'Havas, pas grand monde ne croyait à la, comme on dit, à l'equity story, vous savez, d'Havas. En plus, c'est dans un marché de la pub en train de se concentrer. Il y a un mariage qui a été annoncé entre deux concurrents aux États-Unis. Donc, qui veut du Havas? Bon, en tout cas, Vivendi a mis le prix d'introduction en bourse très bas, et donc c'est resté flat, stagné. Havas, ça vaut 1,5, 1,4 milliards d'euros en bourse. Je rappelle qu'il y a 6 ans, en 2018, c'était pas non plus il y a 20 ans, en 2018, Vivendi avait sorti Havas de la Bourse de Paris à une valorisation qui était deux fois supérieure à celle-là. Donc la création de valeur, je laisse tout le monde se faire un avis dessus, mais elle est assez nette, sachant que, pour terminer, le grand argument de Vivendi et de Vincent Bolloré, c'était de dire, aujourd'hui, Vivendi vaut 10 milliards d'euros en bourse, et en fait ça vaut beaucoup plus, il y a une décote de holding, donc moi j'éclate tout et je mets tout en bourse de manière indépendante, et vous verrez, la somme des sociétés de manière indépendante vaudra beaucoup plus que Vivendi. Et donc il nous avait annoncé que la somme de Havas, de Canal, de Hachette et du reste, en bourse vaudrait en gros 15 milliards, là où ça valait 10 avant la scission. Aujourd'hui le total ce soir est de 8 milliards et demi d'euros. Donc, c'est quand même un pari raté pour le moment.
Il faut voir, voilà, il faut voir sur le long terme aussi, il faut pas se tromper.
Mais ça devait révéler, je cite Yannick Bolloré, ça devait révéler le vrai potentiel de Vivendi. Bon, c'est sûr que ce soir, on se dit, bon, le vrai potentiel, il est plutôt, en fait, ça va être surgonflé avant. Mais ça devait être Big Bang à Big Ben, mais en fait, on peut dire effectivement.
pas mal.
Canal, en fait, Canal+, on voit bien qu'il y a des grandes interrogations, en tous les cas, ça, sur la capacité d'agréger plus d'abonnés. Alors, les abonnés coûtent cher à recruter. Et en plus, les contenus coûtent de plus en plus cher. Je crois que ça, grosso modo, près de 60% des coûts pour Canal+. Et puis, ils ont fait cette grosse opération. Il était venu ici nous en parler, Yannick Bolloré, de racheter le Sud-Africain Multichoice. Oui. Et là, il y a quand même encore pas mal d'interrogations. Donc en fait, c'est la question du timing de l'introduction de Canal+, on peut se demander s'il a été bon, parce qu'il y a quand même il y a beaucoup d'hypothèses et d'hypothèques sur l'avenir de Canal+.
Mathieu,
c'est ça peut-être qu'on peut s'interroger là-dessus.
Sur le timing.
Alors il y a quand même des voix qui s'élèvent dans le marché pour prendre le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez introduire en bourse des sociétés, vous ne le faites pas le 15 décembre, là où tous les investisseurs sont en train de faire leur compte, de boucler l'année. Ils ne vont pas remettre de l'argent. Voilà, on fait ça au printemps. Et donc, beaucoup s'interrogent, alors ça, c'est un épiphénomène, on va dire, mais sur est-ce que ça n'arrange pas, finalement, le groupe Bolloré et Vincent Bolloré en premier, de rater ces introductions en bourse. Je m'explique. La stratégie, c'est ce qu'explique à longueur de journée les financiers de Vincent Bolloré, c'est de prendre le contrôle de société à bas coût, voilà, à vil prix, ce que vous voulez, mais en tout cas, le moins cher possible par définition. Et donc, finalement, là où avant, il avait étudié il y a quelques années une prise de contrôle de Vivendi qui lui aurait quand même coûté 3, 4 milliards d'euros, là, il se retrouve avec une société Canal+, qui en vaut 2 milliards et demi. En mettant quelques centaines de millions d'euros, il en prend le contrôle. Havas, bon, de toute façon, ça sera amené à être vendu. Et ce sont maintenant des sociétés qui sont directement détenues par le groupe Bolloré. Voilà, l'actionnaire, l'objet de la scission, c'est que c'est directement le groupe Bolloré qui en est actionnaire. Et vous savez que, je rappelle que le groupe Bolloré, aujourd'hui, regorge de cash. Donc, effectivement, est-ce que cette opération, finalement, qui est une opération boursière ratée, n'était pas un peu volontairement, ou en tout cas, même si elle échoue, c'est jamais une mauvaise nouvelle. On sait que Vincent Bolloré est le spécialiste pour faire des opérations financières.
C'est très finement joué, en tout cas.
Si elle marche, tant mieux pour lui. Si elle marche pas, il trouve toujours des solutions. Il a toujours plusieurs options. Voilà. Donc, c'est juste pour mettre en balance le positif et le négatif.
Il a d'autant plus que plusieurs options, c'est qu'en fait, il a 4 véhicules et il a 4 entités aujourd'hui. Donc, il peut jouer sur les différentes entités. Je me souviens de la première couverture que j'ai fait, cover, comme on dit dans le jargon journalistique, quand j'étais un bébé journaliste, c'était sur Vincent Bolloré, que personne ne connaissait, le petit prince du cash flow. Et bien, vous voyez, ça lui reste parce que là,
l'histoire se répète.
C'est sûr qu'il est vraiment devenu un as du cash flow.
Absolument.
Et notamment en contournant toutes les directives.
Un peu moins de l'IPO, mais
un petit peu moins. Vivendi, en tout cas, ce qu'il en reste, parce qu'il ne reste plus grand-chose dans Vivendi, toujours côté à Paris.
C'était le portefeuille intéressant.
Ouais, exactement.
Il y a de quoi s'amuser pour quelques années.
Ah oui,
mais qui pourrait sortir du CAC 40 demain soir, nous dit-on. Il y a une réunion du conseil scientifique.
Technique, on va dire.
Évidemment, mais on suivra ça évidemment sur BFM Business. Restez avec nous, 18h52, vue sur le web. Pour terminer, comme tous les soirs, un coup de projecteur sur un article de bfmbusiness.com. Et c'est Frédéric Bianchi qui est avec nous ce soir. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Nous allons parler, mesdames, messieurs, d'un sujet ô combien sérieux. Nous allons parler cuisine, et nous allons parler pâtes. Quand on parle pâtes, c'est très sérieux en général. Pourquoi ? Parce que les chiffres sont formels, Frédéric. Cette année,
là, pas de doute possible.
Les ventes de sauce au pesto ont dépassé celles de sauce bolognaise. Ça n'est sans doute pas anodin, Frédéric.
Voilà. Pour faire un petit sondage autour de la table, quelle est votre sauce de pâte préférée ? Est-ce que vous achetez du pesto ? Mais en tout cas, Panzani nous l'assure, cette année, pour la première fois, les Français ont davantage acheté de pesto. Alors pesto, est-ce que vous savez d'où ça vient ? Ça vient de la région de Gênes, de la Ligurie. Pesto, ça vient du dialecte génois qui veut dire pilé. Hein. Pesto, ça veut dire pilé. C'est devenu pilé. Tout après en français. Donc les Français achètent de plus en plus de pesto. On est quand même depuis un an sur des ventes en hausse de 20%. Dans le secteur de la grande consommation, plus de 20%, c'est rarissime. C'est plus de 1 million de Français, de clients en plus depuis un an. C'est 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2018, c'était à peine une trentaine de millions d'euros. Alors ça peut être surprenant. Pourquoi le pesto ? Ça coûte très cher, le pesto. C'est à peu près dizaine d'euros au kilo, alors que les sauces à la tomate, c'est plutôt 4 à 5 euros en moyenne. Alors, on a interrogé des experts. Pourquoi les Français se sont mis à surconsommer du pesto, qui était plutôt un produit d'urbain, aisé? Alors que là, ça s'est vraiment démocratisé. Alors, la première raison, elle peut paraître paradoxale, c'est l'inflation. À cause de l'inflation, les Français se sont mis à acheter beaucoup plus de pâtes. Les pâtes est devenu un plat à part entière, plutôt que de mettre de la bolo ou le traditionnel comment elle s'appelle, la sauce blanche déjà,
c'est la
béchamel.
La béchamel, oui.
Non, la bon, bref, j'ai oublié le nom.
Bon, bref.
En tout cas,
toute une variété.
Ils ont varié leurs recettes et ils se sont mis au pesto. La deuxième raison, c'est évidemment les goûts et les aspirations.
Oui.
On mange de moins en moins de viande et évidemment, on privilégie les recettes à base de légumes plutôt que les recettes à base de viande, et la bolognaise est en forte chute. On est sur des baisses de 3 à 6% selon les modèles. Et puis après, il y a les marques qui ont brillé, les Panzani, les Barilla, eh bien, qui sortent de plus en plus de modèles de pesto à la roquette, au parmesan, à la pistache, etc. Barilla a quand même investi 1 million d'euros en marketing pour mettre en avant ces pestos dans les magasins Carrefour. On trouve maintenant des corners à pesto dans les magasins Carrefour. Et en 2025, Barilla nous annonce qu'ils vont encore plus mettre le paquet sur cette sauce-là. Donc voilà la montée en gamme des pâtes au pesto.
C'est plus cher le pesto, mais quand on parle de pâtes sérieuses, donc on y met les moyens. Voilà. Vous êtes plutôt pesto ou bolognaise, personnellement?
Moi, ça dépend. Si j'ai quelqu'un en face de moi, je ne prends pas du pesto.
Frédéric, vous?
Ah, moi je suis plutôt bolo, moi.
Moi je suis plutôt bolo.
Très tradit, les ragoûts à la bolognaise qui a longtemps mijoté.
Thomas, non, Mathieu.
Les carbos.
Carbo. C'est ça qu'on cherchait.
Et ben voilà, c'est à lire sur bfmbusiness.com, plus bien d'autres articles évidemment, comme toujours. Merci beaucoup Frédéric.
Merci.
À très vite sur BFM Business. Thomas, merci. Mathieu Pechberti, merci. Edwige, on se retrouve demain, 18h.
Demain, ça sera le président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Salleron.
Oui. Qui sera avec nous, beaucoup de choses aussi, beaucoup d'attentes évidemment.
Demain, les chiffres, à mon avis, ne vont pas être bons.
Effectivement, merci beaucoup, à demain. 18h56, nous revient dans un instant. La loi spéciale votée, ça y est, à l'Assemblée, on va en redire un mot, bien sûr, et puis on continue de dérouler toute l'information, et puis on parlera conso, justement, à 19h15, avec nos experts du jour. Zoom sur le profil type du consommateur, celui qui arpente les magasins en cette veille de Noël. Peut-être que certains d'entre vous en ont eu un aperçu ce week-end, bien sûr. À tout de suite.